Tout commence dans cette histoire par l'achat, chez un antiquaire de province, de deux très grands tableaux, le portrait d'un homme, peut-être un magistrat, et de sa femme. L'encadrement est superbe, il est d'origine, les œuvres sont datées 1780 et signées à Babron. À l'époque, nous sommes en 1999, l'identification du peintre, qui n'avait pas intéressé le vendeur, donne peu de résultats. Le mystère sera finalement percé pour attribuer la paire de tableaux à Antoine Babron, né à Rouen en 1744 et mort à Brest en 1784. Un peintre de genre, miniaturiste et aquarelliste, on ne lui connaissait jusque-là aucun portrait. Antoine Babron a pourtant été l'élève de François Boucher au Louvre et de Chardin. En 1771, à 27 ans, il est nommé par une ordonnance royale peintre de la marine à Brest comme premier peintre du roi, au port et à l'arsenal de la ville. Il s'y était déjà fait connaître par son expérience dans la peinture des vaisseaux. Au temps de Louis XV, ceux-ci étaient ornés de très riches sculptures et de somptueuses décorations. Antoine Babron cumulait au port de Brest les fonctions de chef d'atelier de la peinture et de la sculpture. L'année de sa nomination, Antoine se marie à Morlaix avec Jeanne-Joseph Bonny, âgée de 16 ans alors qu'il en a 27. Elle était d'un bon niveau social puisqu'elle savait lire, écrire, compter, peindre et broder. Le couple aura 8 enfants, dont le dernier naîtra posthume. Les actes de baptême des enfants permettent de situer leur cercle de relations. Parmi les parrains et marraines, on note la fille d'un maître sculpteur, l'épouse d'un chirurgien de la marine, le maître des forges du port de Brest, la fille d'un marchand apothicaire échevin de Brest, un écuyer lieutenant dans un régiment en garnison dans la ville ou un haut responsable des services administratifs de l'arsenal. Antoine Babron était mal payé pour son travail. Son traitement suffisait à peine à faire vivre sa famille. La manipulation des couleurs imposées par ses fonctions altère sa santé car elles sont toxiques. Il s'épuise également dans son travail car la guerre d'Amérique lui impose un surcroît de tâches du fait du nombre de bâtiments sur lesquels il devait intervenir. Sérieusement malade, il meurt à Brest à l'âge de 40 ans. En relatant la brève vie et la carrière d'Antoine Babron, j'ai laissé dans l'ombre ses origines qui vont pourtant nous plonger dans l'univers fascinant des troupes de théâtre de foire au XVIIe siècle. Antoine était en effet le fils de Jean-Michel Babron et de Marie-Jeanne Restier, tous deux comédiens, même si Jean-Michel avait également des talents de peintre. Ils appartiennent, l'un comme l'autre, à de véritables dynasties d'acteurs et d'acrobates. Les actes de baptême de leurs enfants nous permettent de suivre leur vie itinérante. S'ils se marient à Paris en 1739, les parents d'Antoine sont à Metz la même année pour la naissance de leur premier enfant, puis à Rouen pour la naissance d'Antoine. On les retrouve à Dunkerque en 1748, puis à Bruxelles l'année suivante, où Jean-Michel joue Arlequin au Théâtre de la Monnaie. En 1752, ils sont à Lille, en 53 et 55 à nouveau à Bruxelles, puis à Valenciennes en 58 et 1759, à Marseille cette fois. De 1760 à 1763, nous les trouvons à Bayreuth, au service du margrave Frédéric, qui appointe Jean-Michel Babron pour 1200 florins. Après un séjour à Turin, Jean-Michel Babron meurt à Potsdam en Allemagne. Sa veuve, connue également comme la Dame Restier, continue de jouer et donne ainsi en 1774 à Bayonne, en tant que directrice de comédie, un bon opéra, bonne comédie et bon ballet. Cela vaut peut-être maintenant vraiment la peine de remonter le temps avec les familles des deux parents de notre peintre du port de Brest, la famille Babron et la famille Restier. Le père de Jean-Michel Babron, Ange Augustin, était lui aussi peintre et comédien. Son parcours nomade se suit assez bien de la foire de Saint-Laurent à Paris en 1698 à celle de Saint-Germain en 1723. Il se produit dans diverses troupes de l'époque à Lyon, Grenoble, Chambéry, La Rochelle, Angers, Bruxelles, Caen ou Dunkerque. Il est engagé pour jouer le rôle d'Arlequin pendant les voyages de différentes troupes dans les provinces du royaume. Sa femme, Louise Couvrechef, est aussi comédienne et joue à ses côtés les rôles d'Isabelle ou de Colombine. À Leyde et à La Haye, aux Pays-Bas, en 1717, Ange Augustin est même locataire des théâtres municipaux il met en scène des œuvres du répertoire italien pour lesquelles il s'occupe de tout. Il doit trouver les acteurs, régisseurs, éclairagistes, avec les bougies et l'huile d'éclairage, assurer l'impression des billets et des écriteaux, sans compter les costumes. À Paris, la vie des comédiens épouse celle des scènes temporaires érigées à l'occasion des foires. La foire Saint-Germain se tient en hiver sur la rive gauche de la Seine, autour de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. La foire Saint-Laurent se tient sur la rive droite, de juillet à septembre. La foire est ainsi aussi un lieu d'animation et de divertissement avec des pièces de théâtre, des montreurs d'animaux, des danseurs de cordes, des marionnettistes ou des acrobates. Ange Augustin a pour sœur celle qu'on appelle la demoiselle Babron, qui joue les colombines et les femmes travesties en hommes et parcourt les provinces dans la troupe de son mari, le comédien Prévost. Leurs parents, qui se sont mariés en 1679, sont bien sûr du métier. Pierre-Charles Babron est joueur d'instruments et maître à danser, et sa femme Étiennette est ouvreuse de loge au théâtre des Italiens. Elle est bien connue comme la dame Babron. Intéressons-nous maintenant à la famille Restier, celle de Marie-Jeanne, la mère d'Antoine Babron, le peintre, avec lequel nous avons débuté notre histoire. Stéphane Lecordier, l'historien de ces familles d'acteurs de très tôt sous le règne de Louis XIV et de Louis XV, a découvert à son propos un curieux rapport de police du Châtelet d'août 1740 qui décrit l'agression avec tentative de viol dont elle a été victime, menée par un véritable commando de 5 hommes qui visait à la mettre hors d'état de monter sur la scène. Les faits se passent de commentaires. 5 particuliers portant épée, dont 2 étaient les frères d'Alentuile, ont été à la loge de la fille Restier qui y était et s'habillait pour danser à la corde. Les 10 particuliers ayant fait plusieurs insultes à la fille Restier et l'un des 2 frères, qui est plus petit que l'autre et vêtu d'un habit noir, aurait porté la main sur la gorge de la fille Restier et sous ses jupes avec force et violence et aurait voulu lui faire des attouchements que sa pudeur n'ayant pu supporter, elle aurait vivement repoussé le dénommé d'Alentuile et crié à elle, ce que voyant, il se serait emporté de colère et l'aurait battu et excédé de coups de pied et de coups de poing au corps et à la tête avant de prendre la fuite. Marie-Jeanne, c'est d'elle dont nous parlions, est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une enfant de la balle. Elle est danseuse de cordes. Sa sœur Catherine est comédienne et épouse d'un sauteur de cordes. On l'appelait curieusement la petite Catin. Son autre sœur Hélène est aussi comédienne et épouse, évidemment, d'un sauteur de cordes. Le frère Jean est entrepreneur de spectacles forains, directeur de la grande troupe étrangère des danseurs de cordes, lui marié à une musicienne. Et leurs parents, Louis Restier et Marie Oseret, leur ont transmis ainsi toute la palette de leurs talents. Louis Restier, le père donc, est le fils d'un danseur de cordes et comédien, et le frère d'une danseuse de cordes et d'un musicien. Lui-même deviendra sauteur des valets du roi et entrepreneur de théâtre de foire. Alors ça fait plusieurs fois que j'évoque ce curieux métier de danseur de cordes, il faut un instant s'y arrêter. Le danseur ou la danseuse de cordes, ce sont des artistes acrobates et funambules qui évoluent sur une corde tendue au-dessus du sol. Aidés d'un balancier, ils exécutent des pas de danse qui émerveillaient la foule à cause des risques encourus. C'était sans conteste une des attractions principales des foires urbaines de l'époque. La carrière de Louis Restier évoque celle de Jean-Michel Babron, qu'il croisera d'ailleurs souvent sur les routes, s'associant parfois même dans les théâtres forains à Toulouse, Metz, La Rochelle ou Angers, et bien sûr aux foires parisiennes de Saint-Laurent et de Saint-Germain. La vie de ces artistes populaires n'était pas de tout repos. Ils faisaient l'objet d'attaques incessantes de la Comédie-Française, dont les pensionnaires entendaient faire préserver leur privilège d'expression théâtrale. Ils obtenaient régulièrement des arrêts de justice, interdisant aux comédiens de foire de représenter des comédies ou des farces. Par un harcèlement permanent, ils cherchaient à les empêcher coûte que coûte de donner des spectacles. Et les comédiens forains, de leur côté, usaient de toutes les ruses possibles pour déjouer la censure. Comme les dialogues leur étaient interdits, ils s'exprimaient en monologue, pendant qu'un acteur, dissimulé dans le public ou en coulisses, donnait la réplique à celui qui était sur scène. Il déroulait aussi des panneaux ou faisait circuler des écriteaux sur lesquels la réplique censurée était écrite. On peut maintenant revenir à notre peintre Antoine Babron, dont je vous avais fait part du décès en 1784 à Brest. Sa veuve, Jeanne-Joseph Bonny, n'avait alors que 29 ans. Elle s'apprêtait à mettre au monde son 8e enfant, qui ne vivra qu'un an. Elle avait déjà perdu 3 enfants en bas âge. En 1787, elle épouse un protecteur, déjà membre de leur entourage au port de Brest, Joseph Puissant de Molimont, intendant de marine, avec lequel elle aura une fille. Ce remariage assurait aux enfants d'Antoine Babron la garantie d'une meilleure éducation et d'un bon départ dans la vie. Sous l'influence de leur beau-père, ils vont vouer cette vie justement à la marine. L'aîné Jean-Baptiste deviendra capitaine de vaisseau, son frère Joseph sera commissaire de marine et officier de la Légion d'honneur, lui-même père d'un capitaine de frégate, également officier de la Légion d'honneur. Un autre frère, Michel, mourra au combat en 1799, âgé de 20 ans, à Belle-Île-en-Mer. Leur sœur Jeanne, enfin, épouse de Jean-François Desfosses, sera la mère de 2 officiers de marine, dont l'un deviendra amiral. Mais c'est aussi la mère qui leur prendra leur mère, Jeanne-Joseph, dans des circonstances tragiques. En mars 1819, âgée de 63 ans, elle s'est noyée dans la Rance, sur la plage de la Brebis, commune de Pleurtuis, près de Saint-Malo.